Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. Alors, on nous a raconté une histoire en lien avec le Christ noir. Bon, les histoires, elles sont vraies, et elles sont aussi vraies dans leur légende. Évidemment, c'est une légende, mais la légende nous enseigne quelque chose. Alors, quelle est l'histoire de ce Christ noir? Eh bien, c'est celle-ci. Un riche admirait ce Christ avec grande dévotion. Et un pauvre, qui n'aimait pas ce riche, a mis du poison sur ses pieds. Parce que le pauvre voyait le riche qui embrassait les pieds du crucifié, avec beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de dévotion. Alors, le pauvre s'est dit, « Je vais mettre du poison sur les pieds du Christ, pour que le riche meure en faisant ses dévotions. » Eh bien, au moment où il veut embrasser le Christ, le riche, eh bien, le Christ est devenu tout noir. Et là, le riche a reculé, parce que qu'est-ce qui devient noir? C'est un cadavre. Donc, il a senti qu'il devait reculer. Et le Christ, en devenant noir, s'est présenté devant lui comme étant, justement, celui qui vient nous sauver. N'approche pas. Alors le riche, ainsi, a été sauvé parce que le Christ est devenu noir. C'est une légende. Mais c'est une histoire qui peut nous enseigner quelque chose. En tout cas, certainement, d'une part, la dévotion d'un être, d'une personne, qui exprime extérieurement son amour pour Jésus, Jésus crucifié. Pourquoi exprime-t-il cet amour? Par simple dévotion? Peut-être aussi par repentir, peut-être parce que il s'est passé quelque chose dans sa vie de particulier, et il doit tout au Seigneur. Alors il embrasse. Le riche a une dévotion, donc on peut la voir, cette dévotion. Mais arrive une forme de jalousie. La jalousie entre le riche et le pauvre. Mais la jalousie ne vient pas du riche. La jalousie vient du pauvre dans cette légende, dans cette histoire. Le pauvre n'aime pas le riche. Donc nous avons là une division. Une division sociale. Alors le pauvre qui n'aime pas le riche, eh bien, a des pensées qui ne sont pas bonnes. Ce ne sont pas des pensées de paix. Ce sont des pensées de haine, et même plus, des pensées meurtrières. Les classes sociales, les distinctions dans la société. Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur lorsque nous voyons quelqu'un qui est mieux nanti? nous lorsque nous voyons quelqu'un de pauvre? Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Quelles sont les pensées secrètes qui viennent dans notre cœur? En tout cas, dans cette légende, les pensées secrètes deviennent des pensées de mort. Et voilà que le pauvre va se laisser aller dans les chemins de la haine et il va mettre du poison sur les pieds du Christ en croix. Et à ce moment-là, le Christ n'est pas noir. Et lorsque le pauvre fait ce geste, déjà dans son cœur, il a tué le riche. C'est ce que Jésus nous dit dans l'Évangile. Déjà, en n'aimant pas, c'est ce que saint Jean va écrire aussi, nous sommes homicides. Nous sommes homicides. C'est dur à entendre, hein? C'est dur à entendre ces paroles. Mais ce sont les paroles de Dieu, ce sont les paroles des Écritures. Alors nous sommes invités à nous laisser interpeller. Toutes les pensées secrètes qui existent dans nos cœurs, les uns envers les autres, les riches envers les pauvres envers les riches. Quelles sont ces pensées secrètes? Eh bien, elles se révèlent. Elles se révèlent au grand jour dans cette légende. Elles se révèlent par le fait que le riche va comprendre que le Christ, encore une fois, va le sauver. Quand il vient pour embrasser les pieds où se trouve le poison, le Christ devient noir. Et il sait, lui, par expérience, qu'un être humain qui change de couleur, eh bien, il se passe quelque chose. Et quand il devient noir, eh bien, c'est synonyme de la mort, c'est synonyme d'un cadavre. Le cadavre devient noir. Alors, ce sont des petites histoires, des légendes qui nous font réfléchir et qui nous permettent de nous convertir. Alors, la légende ne parle pas de la suite, mais le pauvre, peut-être, verra-t-il dans le fait que le Christ est devenu noir. Peut-être que le pauvre va comprendre aussi quelque chose d'important. Peut-être que ses sentiments vont changer. C'est le Christ qui intervient pour les deux. Il intervient non seulement pour le riche, parce que le pauvre devait regarder le riche et devait espérer qu'il en finisse de ses dévotions. Et alors lui aussi sera témoin de ce changement brutal de la couleur du corpus. Christ. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Encore les pensées secrètes. Ça me rappelle cette parole du vieillard Siméon à Marie, quand il lui dit au sujet de cet enfant, hein, il sera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Hein. Il sera là pour révéler les pensées secrètes d'un grand nombre. C'est rare qu'on pense à cela, les pensées secrètes. Et elles sont légion, les pensées secrètes. Eh bien, demandons humblement au Seigneur que nous soyons d'un côté comme de l'autre, qu'il nous libère des pensées secrètes qui ne sont pas belles, qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas constructives. Qu'elles arrivent, ces pensées, c'est peut-être normal. C'est peut-être lié à notre éducation, à la culture, à des souffrances. Souvent, c'est la souffrance qui est en dessous de cela. Ce n'est pas nécessairement toujours le mal. La souffrance est un mal aussi. La souffrance est une difficulté. Mais souvent, il y a beaucoup de choses qui finissent mal, mais dont l'origine n'est pas nécessairement le mal. Mais l'origine est souvent la souffrance. Qui est devenu insupportable ou intolérable, et voilà que le chemin va se prendre et ça tourne mal. Alors, demandons au Seigneur, moi comme vous, que justement ces pensées parfois qui montent ou ces pensées secrètes, eh bien, se transforment. et qu'au lieu de rester avec, eh bien on les offre, on les donne au Seigneur. On est en mesure de dire, Seigneur, cette pensée, je te l'offre. Je ne la veux pas, je ne la garde pas, je ne reste pas avec. On est en mesure de dire cela, je l'espère. Alors, de cette manière, on est constamment dans un processus de libération. Libération des tensions, libération de la haine, libération de toute forme de jalousie, d'envie. Toutes ces choses existent, on le sait. Mais demandons au Seigneur de nous transformer et de nous montrer justement qu'il désire nous protéger. Tous ces petits poisons qui sont un peu partout et qui ne sont pas faits pour la vie. Eh bien, le Seigneur est là pour nous dire, approche pas. Approche pas de ça. C'est synonyme de mort. Approche-toi de moi, parce que moi, j'ai pris ta mort. Ça aussi, c'est une réflexion. Quand saint Paul dit que le Christ s'est fait péché pour nous, il s'est fait malédiction pour nous, eh bien, quand on voit cette légende du Christ qui devient noir, eh bien, nous le comprenons aussi comme cela. Il s'est fait péché pour nous. Il s'est fait malédiction. Il a changé de couleur pour que l'humanité retrouve sa beauté, sa splendeur. Ça, c'est un grand mystère. Il a porté le péché du monde pour délivrer le monde du péché. Vous voyez, toutes ces histoires, elles sont là pour nous aider. Elles sont comme des paraboles neuves que seul l'Esprit-Saint peut susciter. Et nous en profitons et nous prenons le temps de les méditer. Alors je le revois dans mon esprit, je vous le dis, c'est un Christ noir qui est beau. Parce qu'il sauve. Il nous sauve tous de nos tristesses, de nos idées plus ou moins belles. Il nous sauve de la mort. Il nous sauve du mal, du péché. Il nous sauve de la dérive. Il nous sauve de l'erreur. Il nous sauve des errances. Et il est couronné. Et sa couronne est une couronne d'or. Il est à la fois dans la gloire, mais il est toujours avec nous en ce monde, pour nous faire passer de ce monde au Père, pour que nous soyons, que nous ayons de temps en temps, je dirais, le goût de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est le goût de la gloire de Dieu? C'est le sentiment intérieur d'être sauvé pour toujours. D'être sauvé pour toujours. D'avancer. De monter vers le Père, de sentir que on est pris par un amour plus grand et que cet amour est une certitude qui nous sauve, qui nous fait sourire. Le sourire. Alors, c'est comme une contemplation qu'on vient de faire ensemble. Une sorte de grande méditation à partir de la vision de ce Christ noir qui nous sauve comme il a sauvé ce riche d'un désir funeste d'un pauvre qui, voyant qu'il aimait tellement Dieu, qu'il aimait tellement Jésus, qu'il le voyait tellement avec ses dévotions, qu'il embrassait ses plaies, il a décidé de mettre du poison sur les plaies, sur les pieds, en espérant qu'en embrassant à nouveau les pieds de Jésus, eh bien, le riche crève. Eh bien, ça ne s'est pas passé, parce que le Christ est devenu noir pour sauver à la fois la victime et le bourreau. Les carnets du soir se poursuivent avec une lecture en continu du livre « L'impossible » ou « Les sept marches de l'escalier » dont je suis l'auteur. À cette dernière phrase, la dame de la montagne s'était retournée. Elle reprit. « Tu cherches quelqu'un ?» Petit Jean la découvrit dans son hiver. Comme l'avait dit Pépé Antoine, une paix se dégageait de son beau visage. D'un sourire, elle lui fit signe d'entrer. Tout en parlant, il était demeuré debout. Il lui avoua le motif de sa venue auprès d'elle. Ce désir irrépressible d'atteindre un jour le sommet de l'impossible. Avec un regard pénétrant, elle lui demanda « Pourquoi venir ici, mon garçon, si la montagne est là-bas » « Pépé Antoine m'a dit que vous étiez la seule véritable amie de l'impossible. » Le nom du vieux Pépé semblait réveiller en elle quelques souvenirs. « Pépé Antoine, qui est-ce ? » « C'est mon ami, un vieux Pépé de mon village. C'est lui qui m'a dit que vous étiez la seule étoile qui puisse me guider jusqu'à la montagne. Mais il vient de mourir. » À ces mots, le regard de la dame de la montagne s'assombrit. Puis, avec gravité, elle fixa le visage de Petit Jean. « Ne reste pas debout. Approche. » Timide, il s'avança doucement vers elle. « Que veux-tu ? » « Je veux me rendre au sommet de l'impossible. »« Sais-tu ce que tu demandes ?»« Je sais seulement que je le veux. » »« Tu aimes l'école ?»«
Je pense bien que non. »
Elle le regarda longuement. Puis eut soudainement un éclat de rire. « Moi non plus. Je n'ai jamais aimé l'école. » Tous les deux riaient, crevant la tension qui s'était mêlée à ces dernières paroles. « Tu sais rire, » lui dit la dame de la montagne. « Alors, commençons. » Elle se mit à lui expliquer que l'ascension de l'impossible exigeait des préparatifs. Pas de place pour l'improvisation. Elle se réservait le droit de déterminer elle-même lorsque le temps serait venu de la gravir. Elle allait le soumettre à un entraînement difficile. Et ce n'était qu'au terme de celui-ci que la grande aventure allait commencer. « Il y aura sept marches à l'escalier qui mènent à l'impossible. Chaque marche sera déterminante. Je ne te demande pas de comprendre, mais de les gravir les unes après les autres. » Petit Jean était ravi. Enfin, il trouvait, en plus du vieux Pépé, quelqu'un qui ne lui rabattait pas la tête vers le sol. Cette autre main le hisserait jusqu'à la cime de l'impossible. « Je suis prêt à tout !»« Ne parle pas trop, mon garçon. Les mots sont trompeurs. Tu sais travailler le bois ?
Un peu.
Alors voici. » « Trouve d'abord un bon bois dans lequel tu te tailleras un arc et des flèches. » Petit Jean retenait son souffle. Elle continua. « Ensuite, fabrique-toi une cible et deviens le meilleur archer qui soit. Lorsque tes flèches atteindront le centre de ta cible, tu reviendras frapper à ma porte. » Ton meilleur ami, désormais, c'est le temps. » Reprenant le chemin qui menait au village, Petit Jean débordait d'enthousiasme. Il se sentait fort et courait déjà au devant de la victoire. Il se voyait proclamé champion du tir à l'arc et prêt à arracher une à une toutes les médailles d'or du monde. Il leva les yeux vers l'impossible en criant de joie. « Pépé Antoine, il est beau, ton soleil à toi !»
Le mien, il m'aveugle, Pépé Antoine, tu comprends? Il m'aveugle!
Longtemps, Petit Jean chercha le bois qui conviendrait pour tailler son arc et ses flèches. Trop mou, trop dur, pas assez souple, Petit Jean découvrait le monde des bois. Finalement, il crut trouver. Mais savait-il comment fabriquer un arc et des flèches? Il ne s'agissait pas de rafistoler un joug avec des branches et une corde. Il lui fallait devenir le meilleur archer. Il décida de se rendre chez le charpentier du village pour lui demander son aide.
« Hé, charpentier, tu peux m'aider ?»«
Quoi ? » ?»«
Comment fait-on pour tailler un arc ?»
Le charpentier s'arrêta et se tourna vers Petit Jean. Il se mit à le regarder étrangement en se frottant le visage.
« C'est pourquoi ton arc ?»«
C'est pour... »
« Pour... pourquoi ?»
insista le charpentier.
« Pour aller à la montagne. »«
Quelle montagne ?»«
L'impossible !»
Furieux, le charpentier leva la main pour frapper la tête de Petit Jean, mais celui-ci recula.
« Je n'ai rien à dire à des insensés comme toi. Si tu veux partir d'ici, débrouille-toi tout seul !»
Le charpentier se retourna ensuite vers son ouvrage et ajouta sur un ton de plus en plus bas et de plus en plus lent.
Ou alors fais comme moi. Moi, je reste au village, et je n'embête personne.
Petit Jean tourna les talons, laissant le charpentier débiter seul ses mauvaises paroles dans son atelier. Son morceau de bois à la main, Petit Jean était venu s'asseoir à la fontaine. Il ne pouvait réinventer à lui seul un outil millénaire. Pour les flèches, passe encore. Mais un arc devait se fabriquer d'une manière très précise et qu'il ne connaissait pas. Soudain, un éclair lui traversa l'esprit.
« Tu aimes l'école ?»
lui avait demandé la dame de la montagne. Petit Jean se leva en hâte et se rendit à l'école, où se trouvait la bibliothèque du village. Peut-être s'y trouvait-il quelque chose sur les arcs. Mademoiselle Eugénie, chargée de la bibliothèque, reconnut Petit Jean.
Tu es égaré ?
Fit-elle avec mépris.
Mademoiselle Eugénie, il fait un temps superbe, vous ne trouvez pas ? Je vois que la nature t'attire encore plus que l'étude.
Mademoiselle Eugénie, je cherche un livre sur les flèches.
Les flèches ? Quelles flèches ? Tu ne penses pas qu'il faudrait commencer par chercher quelque chose sur les arcs.
Mais c'est vrai, fit naïvement Petit Jean.
Et vous auriez quelque chose sur les arcs,
reprit-il, feignant l'incrédulité.
Ma bibliothèque ne manque de rien, Petit Jean. Bien.
Entre les rayons, il faisait un peu sombre, et l'air était lourd dans cette salle tout en bois qui perdait son souffle en gardant la poussière. Mademoiselle Eugénie dégagea entre deux énormes bouquins un tout petit livre traitant de l'histoire et de l'évolution des armes. La poussière avait suivi son geste et Petit Jean se mit à éternuer plusieurs fois au grand déplaisir de Mademoiselle Eugénie.
« Voilà !»« Pensez-vous qu'on y parle des flèches ?»
insista Petit Jean.
« Regarde d'abord ce qu'on dit des arcs, mon gamin. Je crois que cela te mènera à des flèches. »
Petit Jean remercia Mademoiselle Eugénie pour le judicieux conseil et se félicita intérieurement de la manière dont il avait rusé pour gagner l'autoritaire bibliothécaire. Le morceau de bois d'une main et le petit livre de l'autre, il prit congé d'elle en se disant qu'il n'aimait vraiment pas l'école. Il passa une partie de la nuit à étudier le petit livre. L'arc avait une longue histoire. Petit Jean en découvrit différents modèles et choisit le plus simple. Trois jours plus tard, il ne cessait d'admirer son travail, faisant tourner son arc comme on fait pour les bijoux. Mais il fallait faire aussi les flèches. Rien de plus facile. À peine terminait-il sa première flèche qu'un dernier mouvement malhabile la cassa. Pour la seconde, il mit toutes les précautions et les attentions qu'il fallait et réussit. Il l'appuya sur le petit banc près de lui. Il avait maintenant une flèche pour son arc. Mais lorsqu'il s'étira pour prendre son arc qu'il avait déposé un peu plus loin, La flèche de bois s'accrocha à sa manche, et malgré une gymnastique des plus soignées qu'il fit pour ne rien briser, elle se fendit soudainement. En colère, il frappa de son pied le petit banc. Il fallait recommencer. Avec encore plus de temps, de soin et de minutie, et tout un gestuel de sécurité, il réussit à tailler un bon nombre de flèches. Il fallait maintenant joindre les flèches à l'arc et à la cible. Petit Jean était fier de son travail, mais tout commençait. La cible était bien plantée à cet arbre de la petite clairière, où l'ombre s'étendait doucement. À l'abri des regards indiscrets, Petit Jean avait repéré ce petit coin merveilleux pour ses débuts. Il se préparait à devenir le meilleur des archers. Il se plaça donc en tenant son arc et prit une flèche. Après bien des efforts, il tira, mais sa première flèche lui resta entre les doigts. Ce jour-là, il passa tout son temps à essayer de tirer ses flèches sans même tenir compte de la cible. Les flèches allaient dans tous les sens, et quelques-unes se perdirent dans la clairière. Fourbu, il rentra chez lui avec ses flèches et son arc, comme un combattant refoulé aux frontières. Il avait mal à l'épaule droite, et des ampoules lui étaient apparues aux mains. Le jeune archer s'encourageait en pensant à la montagne et aux multiples dangers auxquels il devrait faire face. L'intention de la dame de la montagne était bonne, et il devait être plein d'habileté pour affronter les bêtes qui s'y cachaient. Oubliant ses douleurs à l'épaule et ses mains blessées, il résolut de poursuivre son entraînement le lendemain. Le souvenir de la montagne lui avait redonné tout son élan. « Le temps est désormais ton ami », lui avait dit la dame de la montagne. Des jours, des semaines s'écoulèrent. Petit Jean ne tirait plus ses flèches partout. La cible les attirait toutes sans exception. Tout son corps savait épouser le mouvement de l'arc et il tirait avec une grande précision. Mené par la curiosité, des gens venaient assister aux prouesses de Petit Jean, étonnés de son habileté. Depuis quelques jours, cependant, il pensait souvent à la dame de la montagne. Ne lui avait-elle pas dit de revenir lorsqu'il aurait atteint de ses flèches le centre de la cible? Après des semaines de travail acharné, de découragement, d'efforts et de ténacité, ce jour-là était arrivé. Il était donc temps de regagner la montagne pointue avec tout son attirail. La dame de la montagne serait fière de lui. La première marche de l'escalier était montée. Tout paraissait calme, devant la chaumière blanche, où Petit Jean se tenait à nouveau. Il eut l'idée de s'annoncer d'une manière originale. Cette fois-ci, il ne frapperait pas à trois reprises. Une seule fois suffirait. Il mit donc son arc, y ajusta une flèche, et tira avec brio sur la porte qu'il atteignit en plein centre. Il attendit quelques instants et la porte s'ouvrit sur le profond regard bleu de la dame de la montagne. Armé de son arc, de ses flèches et de la cible qu'il avait apportée, il courut au-devant d'elle.
« Tu veux que je te montre ?»«
Non, » dit-elle. Petit Jean eut un coup au cœur.
« Tu ne veux pas ?»
« Non, je te crois, sans voir. »«
Mais laisse-moi te montrer. Tu vas voir défiler chaque flèche jusqu'au centre de la cible, comme tu me l'as demandé. »«
Qu'est-ce qui est le plus important ? Que je te fasse confiance ou que je te voie ?» Petit Jean était figé. Il ne comprenait plus rien. Ne sachant que faire, il regardait avec hébétude ses flèches, son arc et la cible. Dans son esprit, il revit tout le parcours qu'il lui avait fallu faire pour en arriver là. Les images se succédaient avec une rapidité affolante. Le charpentier, le livre, les flèches qui cassaient, la douleur à l'épaule et aux mains. Tant d'efforts et de persévérance à l'entraînement? Non, vraiment, cela n'avait plus aucun sens. La dame de la montagne... le pria d'entrer. Petit Jean restait debout, un peu perdu dans ses pensées.